qui aurait pensé que Jésus, à un moment donné, donne sa vie aussi. Jésus qui a été rempli d'amour, Jésus qui a été rempli de grâce, Jésus qui a guéri, Jésus qui a délivré, Jésus qui a nourri, Jésus qui n'a fait que du bien. Et tout ce que les hommes ont réussi à faire, c'est de lui offrir une couronne, mais pas n'importe laquelle, une couronne d'épines et la croix. Voilà ce que l'homme a réussi à offrir au Dieu créateur des cieux et de la terre, au Dieu tout-puissant, celui qui s'est donné jusqu'au bout. Vous vous rendez compte la dureté de cœur que nous avons. Et moi, ça m'interpelle. Est-ce que j'ai vraiment compris la dimension de l'Évangile? Est-ce que j'ai compris tous les enjeux qu'il y a au niveau de l'Évangile? Est-ce que j'ai compris que je dois perdre ma vie pour la gagner en Jésus? Et la question de cela ce soir en... ce dimanche de Pâques, chers frères et sœurs, bien-aimés. Et nous voulons vraiment avoir rendez-vous encore ce soir avec le Seigneur et en venir au centre de l'Évangile. Je vous propose de reprendre ce que Christophe a lu tout à l'heure dans le psaume 18. Il est dit au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David, serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et même de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. » Amen. « Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. » Je trouve tellement fort que David dit « Je t'aime, ô Éternel, parce que, Éternel, tu es ma force. » Oui, Éternel, non seulement tu es ma force, mais tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Vous voyez, David comprend qu'il s'approprie les grâces de l'Éternel. Et lorsqu'il invoque le nom de l'Éternel, quelque chose se passe. Lorsque tu invoques le nom de l'Éternel, est-ce que tu es conscient que quelque chose se passe? Plus loin, il dit « mon bouclier » parce qu'il a besoin d'un bouclier. « La force qui me sauve ma haute retraite ». C'est magnifique. On pourrait prêcher toute la soirée déjà sur ce texte-là. Et c'est pourquoi il dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, amen, et je suis délivré de tous mes ennemis ». Mais qu'est-ce qui se passe au Sri Lanka? Quand l'ennemi frappe encore, quand l'ennemi fait couler le sang, quand l'ennemi est encore là, rempli de haine. Et c'est là que l'Évangile prend tout son sens, parce que ça nous dépasse, parce qu'on ne peut pas expliquer ses souffrances, parce que j'ai besoin de toi, Éternel, pour vraiment continuer de m'attacher à toi, quelles que soient les circonstances. Et même si je passe par la persécution, Seigneur, je veux tenir le coup, Seigneur, parce qu'au-delà de tout cela, tu demeures, tu m'aides, et tu vas me rendre victorieux, même si peut-être un jour, je vais aussi perdre la vie. Verset 5, les liens de la mort m'avaient environné. Les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Vous voyez, il y a ce cri de délivrance dans le Seigneur, mais voyez où David a passé. Regardez le propos de cette soirée au psaume 22. Là, David reprend au chef des chantres sur Biche de l'Aurore, psaume de David. Et voici ce qu'il dit, David. Et là, c'est prophétique. Et vous allez reconnaître ce passage. Verset 2, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es toujours mon Dieu, tu es toujours l'Éternel que j'ai invoqué, tu es toujours l'Éternel de ma délivrance, tu es toujours l'Éternel, mon libérateur, tu es le Dieu de mon salut, tu es ma forteresse, tu es mon rocher, tu es mon bouclier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quel contraste! De ce Dieu qu'il a intégré, qu'il a pris pour lui, de ce Dieu qu'il a intégré dans sa vie, de ce Dieu qu'il connaît comme son rocher, comme sa forteresse, comme sa puissance, comme sa raison de vivre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça, c'est la question peut-être que ce soir tu te poses, dans tes circonstances. Peut-être que c'est la question que ces Sri Lankais se posent. Il y a toutes les raisons de se poser parfois ces questions. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est fait, tu m'as abandonné. Les circonstances montrent que tu m'as abandonné, Seigneur. Pourquoi? Et moi, j'apprécie la puissance des psaumes, j'apprécie la teneur des psaumes, j'apprécie l'authenticité de David qui exprime ce qu'il a dans son cœur. Amen. Et ce soir, tu peux exprimer ce que tu as dans ton cœur pour le Seigneur, même si tu te sens abandonné. Même si tu ne comprends plus rien, parce que lorsqu'on se sent abandonné, on ne comprend plus rien, c'est terminé, il n'y a plus rien qui se passe. Surtout que ce Dieu qui a mangé ma forteresse, le Dieu Tout-Puissant, comment ça se fait que tu m'abandonnes, Seigneur ? Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une parole prophétique que nous allons retrouver tout à l'heure dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Mais cette parole a précédé des centaines et des centaines de siècles avant. Et c'est extraordinaire, c'est David qui l'a exprimé. Pourquoi ? Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Tu peux être une personne selon le cœur de Dieu, mais tu peux aussi te sentir abandonné. Et ça, c'est le cœur de l'Évangile. Dieu ne veut pas t'abandonner, mais dans ce sentiment d'abandon, le Seigneur veut que toute ta vie, que toute ton âme, que tout ton être crie à l'Éternel. Et parfois, il y a des circonstances dans nos vies où toute notre vie, tout ce qui est en nous, tout ce qui est dans nos entrailles, dans nos guts, comme disent les Américains, dans ce qui nous habite, doit crier à l'Éternel et Dieu veut entendre ce cri. Et Jésus l'a aussi dit. Et c'est là où je me sens rejoint par ce Dieu absolument extraordinaire qui connaît ma souffrance. Regardez, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Adonai, Adonai, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Peut-être que c'est un temps pour toi ce soir où tu te sens rejoint. Dieu comprend ta souffrance. Amen, je continue. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Ça montre combien David certainement était confus là. Regardez ce que David dit, un homme selon le cœur de Dieu. Verset 7, « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Lisez attentivement avec moi ce passage parce qu'on va le retrouver dans l'événement de la croix plus tard. « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande ton sort, ou plutôt recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il m'aime. » Jésus a aussi entendu ces choses. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Pourquoi alors, Éternel, m'as-tu abandonné ? Toi qui m'as créé, toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Le psaume 139 est aussi un magnifique rappel que David aussi a rappelé là. Le psaume 139 dit, mais tu m'as connu dans le sein de ma mère, tu m'as tissé d'une manière passionné. Seigneur, tu as pris le temps de me voir, tu as compté tous les jours de ma vie, tu savais quand je me lève, tu sais quand je marche, tu sais quand je parle, avant même que ma parole soit sur ma bouche comme ce soir, Seigneur, tu la connais, tu me connais de fond en comble. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Que se passe-t-il, Seigneur ? Toi qui as connu tous les jours de ma vie, pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur ? Que se passe-t-il ? Nous sommes au cœur de l'Évangile, au cœur du cœur de Dieu ce soir. Alors il dit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours, ô Seigneur, parce que toi seul es mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. C'est pas marrant d'être entouré de taureaux, c'est absolument épouvantable, c'est absolument désécurisant, n'est-ce pas ? Parce que les taureaux, il y a une telle vigueur. Et il se sent complètement démuni. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. N'est-ce pas le cri de Jésus à la croix ? Ils se fondent dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est étonnant quand même cela, que David dise cela. Est-ce qu'il l'a vécu ? Je ne sais pas. Souvenez-vous que Christ s'est assis sur le trône de David et Christ était le précurseur. C'est un type de Christ, bien-aimé. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Je ne veux pas dire que tu es un précurseur ou une précurseuse. Je ne sais pas si ça dit en français au féminin, mais on veut quand même compter les sœurs. Mais est-ce que tu précèdes quelque chose dans l'œuvre de Dieu ? Dans ta souffrance, peut-être. Paul l'a dit aussi. S'il pouvait servir encore de libation, plus de sacrifice. Donner sa vie jusqu'à la lie, jusqu'au bout, pour glorifier l'Éternel. Je relis, « Tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma force dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. » Jésus avait tellement soif. « Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. » Vous rendez compte ? Eux, ils observent, ils me regardent, je rajoute, ils se moquent de moi. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est étonnant de voir que David, dans son âme, dans ses entrailles, dans son être entier, a vécu, je pense aussi, ce que c'était la croix, je ne sais pas comment, prophétiquement. Un homme selon le cœur de Dieu qui vit ces choses pour comprendre le cœur de Dieu. Et je crois vraiment que l'Éternel recherche des hommes et des femmes qui peuvent s'identifier à cela au niveau de l'Évangile, bien-aimé. Nous devons être habités du message de Dieu. Nous devons avoir cette communion avec l'Éternel pour ressentir ce que Dieu a pour nous dans son cœur, au point d'avoir un cœur déchiré pour ceux qui sont perdus. C'est tellement fort. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Il sait que l'Éternel pourra le faire. Je publierai ton nom parmi les frères. C'est magnifique. Même si je me sens dans cette détresse, je continuerai de prononcer, de proclamer le grand nom de l'Éternel. Amen. Au point de le publier parmi les frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Amen. Il continue, coûte que coûte, de compter sur le Seigneur et de le célébrer dans l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous êtes de la postérité de Jacob. Vous qui placez votre confiance en l'Éternel, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances. Amen. Alléluia. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Alléluia. Le Seigneur t'adresse cette parole ce soir. L'Éternel n'a ni mépris ni dédain pour toi, qui peut être dans la misère. Et ne lui cache point sa face. Et pourtant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est comme si David revenait à la raison. Et pour cela, il réactive sa foi au-delà des circonstances pour dire, Seigneur, et c'est comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et pourtant, Job avait pour père et pour mère des vers. Il le dit, ces vers sont ma mère et mon père. Lorsqu'il était rempli de je ne sais pas ce que c'était, mais il était rempli, il devait se gratter avec un tesseau de porcelaine pour enlever tout l'ulcère qu'il avait sur lui-même. Vous rendez compte, c'est absolument épouvantable jusqu'où c'est allé. La souffrance de Job aussi. Et Dieu l'a permis parce qu'il y avait un combat spirituel. Vous le connaissez, hein, ce passage, vous pouvez relire le premier chapitre et le deuxième chapitre de Job où il y a un combat spirituel qui est livré. Et Dieu sait que Job ne va pas le renier, même si le diable lui dit, je suis sûr qu'il va te renier et te maudire. Et Job a tenu le coup. L'Éternel ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. Oh, alléluia. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui le craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Alléluia. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Pourquoi ? Parce que nous sommes de la race d'Abraham et que nous savons que toutes les familles de la terre, selon Genèse 12, seront bénies en Abraham. Amen. Dans la foi qui nous anime de tenir coup, le coup, jusqu'au bout. Alléluia. Car l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie, la postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et David, qui était ce roi absolument extraordinaire, humble de cœur, savait qu'il y a des générations qui le suivront et qui continueront de proclamer de génération en génération les bontés de l'Éternel. Amen. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Amen. Nouvelle naissance, peuple nouveau-né, salut annoncé. Alléluia, nouvelle naissance, nouvelle vie en Christ, magnifique. Vous voyez comme c'est prophétique. voyez comme la parole de Dieu est extraordinaire. Je suis tellement emballé ce soir de vous partager. Vous pouvez le voir, ces choses absolument extraordinaires. Est-ce qu'on peut prendre maintenant dans le Nouveau Testament l'heure de Jésus, l'heure de la souffrance, l'heure de la crucifixion, l'outrage des soldats, qui donne bien entendu écho au psaume 22. Et ce passage que nous trouvons dans les évangiles, passage parallèle aussi, reprend le seul passage que je viens de lire, celui du psaume 22, qui explique de manière explicite justement ce qui s'est passé et ce que David avait déjà pu pressentir, même dans son âme, même dans son corps, même dans son esprit, de ce que Jésus allait subir. En sortant au verset 32 du chapitre 27 de Matthieu, Matthieu 27, 32, nous sommes à l'heure de la crucifixion. Et vous savez que Pâques, c'est un événement. C'est la crucifixion, mais la résurrection. Amen. L'événement de Pâques, c'est un seul événement. Ce n'est pas seulement la crucifixion et la mort, mais c'est aussi la résurrection. D'accord ? C'est un événement total. En Christ, la mort va avec la vie et la vie va avec la mort à soi-même. Amen. Ça, c'est Pâques. Verset 32. Chapitre 27 de Matthieu, en sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'étonnant. Ils le forcèrent de porter la croix de Jésus. Retenez cela. Arrivé au lieu dit Golgotha, ça veut dire crâne, ce qui signifie le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Il voulait rester jusqu'au bout, conscient. Jésus, qu'il donnait sa vie pour toi, sans prendre quelque chose qui le soulage. Il voulait être conscient et souffrir jusqu'au bout, conscient qu'il donnait sa vie jusqu'au bout pour toi. Ça, c'est l'évangile. Après l'avoir crucifié, oui les amis, c'est arrivé. La parole de Dieu le dit, il y a eu Christ, crucifixion. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Vous voyez, on relit ce qui se passe dans le chapitre 22 des psaumes et on est propulsé des centaines de siècles après dans cet événement capital, le cœur de l'évangile. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Quel spectacle au point de s'asseoir et de se moquer. On fixa au-dessus de sa tête le texte indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Amen. Là aussi, c'est prophétique. Vous savez que les pharisiens ont voulu enlever cet écriteau, mais Dieu ne l'a pas permis parce qu'ils ont crucifié. Ils ont crucifié le roi des Juifs. J'ai crucifié le roi des Juifs par mon péché, par ma culpabilité, par ma dureté de cœur, par ma méchanceté. J'ai crucifié le roi des Juifs. Ça, c'est Pâques. J'admets ma culpabilité devant la croix du Seigneur. Je ne veux pas être seulement spectateur, mais je veux être aussi acteur dans la reconnaissance que j'ai, que je suis un pécheur qui est crucifié Jésus. C'est dramatique. Ma nature pécheresse a occasionné la crucifixion de Jésus. Avec lui furent alors crucifiés aussi les deux brigands, vous connaissez l'histoire, l'un à droite et l'un à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête, on l'a lu en psaume 22, en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » C'est prophétique aussi, parce que 3 jours après, Jésus est ressuscité, amen, et que c'est vraiment le temple, vous êtes le temple, amen, parce que Christ n'habite pas dans une pierre. Alors je ne vais pas vous dire ce qui se passe à Notre-Dame de Paris. On essaie de sauver la pierre, bien sûr, il y a le patrimoine, ça compte. Mais ce qui compte le plus, c'est l'être vivant, c'est la créature de Dieu. Vous êtes les pierres vivantes qui bâtissez l'édifice, l'Église, amen. Et Dieu porte toute son attention sur vous, parce que vous êtes le temple qui a été mis en place 3 jours après, tout simplement, entre guillemets, parce que c'est extraordinaire quand même, il fallait y penser, hein, ce plan de salut, de donner son Fils pour qu'il meure pour mes péchés, et que le troisième jour, le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit, vienne à le ressusciter, et c'est la création de l'Église plus tard, bien entendu, dans la Pentecôte, amen, et vous êtes l'édifice vivant, bien entendu, de l'Éternel, amen, vous êtes le temple de Dieu, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, bien sûr, et ensemble, nous sommes le temple de Dieu, amen, 3 jours après, comme le signe de Jonas, le temple a été reconstruit, et ce temple va être amené et emmené dans l'éternité pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Extraordinaire. Sauve-toi toi-même. Non, non. Jésus a donné sa vie. Il ne voulait pas se tirer. Il ne voulait pas partir. Il voulait rester à la croix. Et la preuve que Jésus est mort à la croix, c'est que son sang a coulé. Le Lévitique dit qu'il y a la vie dans le sang, bien-aimé. Et Jésus a perdu sa vie, a donné sa vie, a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang pour bien montrer qu'il est vraiment mort. Oui, il est mort. Et il m'a rejoint jusque dans ma misère, la misère de la mort. Il n'y a pas plus misérable que la mort, vous êtes d'accord? Il n'y a pas plus dramatique que la mort. Et Jésus a été jusqu'au drame de ma mort. Me rejoindre jusqu'au drame de la mort, jusqu'à ce que... Je veux dire, la mort, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Après, ça sent mauvais, je veux dire, c'est terrible. Il n'y a pas pire que la mort. Et Jésus a voulu aller jusque-là pour moi. Amen. Ma misère, il l'a comprise. Ma détresse, il l'a comprise jusqu'à la mort. Et ça montre combien misérable je suis parce que Jésus a dû mourir misérablement à la croix pour moi. Et ça, c'est le message de l'Évangile. C'est un Dieu qui a voulu s'identifier jusque dans ma mort. Moi qui mérite de mourir parce que j'ai péché par la désobéissance d'Adam et Ève. Vous savez que la désobéissance du Seigneur marque une coupure spirituelle avec Dieu qui engendre la mort. La coupure spirituelle engendre la mort physique. En revenant au texte. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Vous vous rendez compte de cette tentation? Le diable a essayé de tenter Jésus là. Les grands prêtres avec les sacrificateurs, les anciens se moquaient de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Baliverne, c'est pas vrai. Il n'était pas conscient que Jésus, par sa vie donnée, était en train de les sauver. Mais il perdait sa vie pour cela. Le message de la croix, le message de l'Évangile n'était pas compris, bien sûr. Et ils en rajoutent, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Un écho du psaume 22. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Et il prenait les paroles du Fils de Dieu véritable pour les retourner contre lui, pour se moquer. Mais vous vous rendez compte ce que Jésus a dû subir. Et toi peut-être qui subis les moqueries, toi qui subis peut-être les affres de ceux qui se moquent de toi, peut-être que tu n'en peux plus, mais regarde ce que Jésus a dû supporter à la croix à cause de toi, à cause de moi. On ne peut pas aller plus loin dans ce scénario de la méchanceté du cœur de l'homme. Ce n'est pas possible. Regardez ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y en a pas un qui est bon. Le seul qui est bon, c'est Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons bon Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Il y en a un qui s'est repenti. Vous connaissez celui qui s'est repenti. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, bien sûr. Le poids du péché a même permis que les éléments soient perturbés et qu'il y ait une noirceur, la noirceur du péché de l'humanité reposait sur la croix de Jésus. Ça devait être hyper lourd. Vous avez déjà senti des lourdeurs spirituelles, mais alors là, c'était lourd de chez lourd. Hein. Non seulement lourd spirituellement, mais lourd avec des ténèbres qui étaient là sur la croix de Jésus. Et Jésus qui était là et qui prenait le péché de l'humanité. Je ne sais pas si on se rend compte de ce qui se passe. Une scène absolument extraordinaire, épouvantable, depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, pendant trois heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, pas seulement sur la croix, sur toute la terre. Je ne sais pas si c'était ce qu'en Israël, je ne sais pas, vous devrez vérifier. Mais en tout cas, dans cette région-là, il y avait vraiment les ténèbres. Et vers la neuvième heure, il y a ce cri de Jésus, une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et là, nous avons la Trinité, je l'ai déjà dit ici, mais j'aime beaucoup le dire, la Trinité qui, pour une fois, a été déchirée. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans cette extraordinaire Trinité au siècle des siècles, parce que Dieu est éternel, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a ni commencement ni fin, il est le commencement, il est la fin, il n'a ni commencement ni fin, il est l'alpha et l'oméga, il est tout en tous, ce Dieu extraordinaire à la croix, pour une fois et une seule fois, bien-aimé, à la croix, la Trinité a été déchirée. La Trinité a été privée de l'agneau de Dieu qui a donné sa vie pour moi, pour toi. il y a eu un tremblement dans le ciel extraordinaire. Le voile du temple à ce moment-là s'est déchiré du haut en bas. Ce n'était pas possible que l'homme puisse le déchirer. Il fallait que Dieu le déchire par son amour, parce que le cœur de la Trinité était déchiré, parce que Dieu en trois personnes était déchiré, parce que la Trinité n'était plus vraiment la Trinité, elle était déchirée pour que Jésus dise « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Une fois c'est arrivé, c'est à la croix que c'est arrivé. C'est tellement fort, bien-aimé, l'évangile, la croix qui me bouleverse, qui m'interpelle, qui me dérange. Et j'espère, Seigneur, que tu me déranges encore ce soir dans ma vie, Père, pour que je te donne encore, peut-être encore plus ma vie, Seigneur, pour toi. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa sur un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Vous rendez compte de cette moquerie jusqu'au bout. Jésus qui a tout fait à la croix. Il paraît que la croix, c'est la mort la pire qui soit. Vous avez les poumons qui se liquéfient littéralement. Vous étouffez et ils vous mettent un petit support sur le pied justement pour que vous puissiez juste un petit peu encore souffler encore un peu. C'est une mort lente, c'est abominable. C'est abominable. Jésus a été jusque-là pour toi. Ça, c'est Pâques. Il n'y a pas un Dieu comme notre Seigneur qui a donné sa vie jusqu'au bout et qui connaît la souffrance comme nul n'a pu la connaître. Une souffrance spirituelle, une souffrance psyché, psychique de l'âme. Dans les émotions, Jésus a connu toutes les souffrances et bien sûr la souffrance physique. Voici le voile du temple. Alors attendez, verset 50 quand même. Hein. Verset 49, mais les autres dirent, laisse, voyant si Élie viendra le sauver, moquerie jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle de Jésus, on s'est moqué de lui, vous vous rendez compte? Et je pense que même Jésus devait être dévêtu à la croix, humilié, violé, exposé à la nudité. Mais vous vous rendez compte? Le Dieu créateur des cieux et de la terre, Christ, parce que tout a été créé en lui et pour lui et grâce à lui, complètement dévêtu, livré aux yeux de tous, la moquerie jusqu'au son dernier souffle. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et voilà de quoi l'Église est constituée. Et c'est pourquoi, depuis des siècles et des siècles, nous rendons gloire à l'Éternel. Et c'est pourquoi l'éternité sera faite de louanges à l'Éternel, parce que ça nous dépasse. Il faudra bien l'éternité pour remercier le Seigneur. Amen. Si tu n'as pas commencé à remercier déjà le Seigneur maintenant. Jésus poussa de nouveau un cri, d'une voix forte, et rendit l'Esprit, la Trinité, qui s'est déchiré et qui s'est de nouveau réunifié. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous vous rendez compte ? Quelque chose d'extraordinaire s'est passé, le sortir des tombeaux après la résurrection de Jésus, entrer dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande crainte et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu, mais c'était le moment de le reconnaître quand même, hein ? S'il fallait ça pour qu'on commence à le reconnaître ?» Pourtant, depuis, nous avons et vous avez reconnu qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin. Celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, mère de Jésus aussi, bien sûr, et la mère des fils de Zébédée. Chapitre 28, premier verset. Après le sabbat, au début du premier jour de la semaine, Marie de Magdala, vous savez, cette Marie de qui Jésus avait chassé, je crois, au moins 7 démons. Hein. Elle était là, son Seigneur, son Jésus. Elle y croyait encore pour aller au tombeau. Et l'autre Marie allait voir le sépulcre. Et voici que ce fut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La crainte bouleversa les gardes qui devinrent comme morts. Il y avait de quoi, hein ? Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, soyez sans crainte, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. Amen. En effet, il est ressuscité. Alléluia. Comme il l'avait dit, venez, voyez l'endroit où il était couché et allez promptement dire à ses disciples, qui eux étaient complètement dispersés, qui avaient complètement abandonné, allez leur dire qu'il est ressuscité. Des morts. Alléluia. Parce que l'événement de la résurrection, l'événement de la résurrection te donne le courage, amen, de continuer. Amen. Il vous précède même en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé. C'est comme cela que ça s'est passé. Amen. Parole vivante du Seigneur. Dernier passage pour ce soir, premier verset du chapitre 9. Premier verset du chapitre 9 de Luc 9. Luc 9, premier verset. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 9, au premier verset, « Il convoqua les douze, leur donna la puissance et l'autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Alléluia. Il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et opérer des guérisons. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent à l'air de village en village, ils annoncèrent la bonne nouvelles et opérait partout des guérisons. Jésus accompagnait les douze dans la puissance et l'autorité d'exercer le ministère. Regardez ce qui se passe plus loin. Entre-temps, il y a la multiplication des pains. Il y a le miracle de Jésus qui nourrit les foules pour bien leur dire que lui-même est vraiment cette nourriture, est vraiment ce pain qui nourrit. Mais Jésus passe à la pratique quand même pour donner de la nourriture aux foules qui ont faim. Mais c'est un message que lui-même est le pain de vie. Et au verset 18, on a la confession de Pierre. Donc il y a cette grâce d'exercer par l'autorité de Jésus la délivrance, de chasser des démons, mais il y a un temps où il y a la confession quand même de qui est Jésus. Je trouve assez extraordinaire cet événement-là, comme la parole de Dieu le présente. Et voici au verset 18 du chapitre 9 de Luc, « Un jour que Jésus prit à l'écart et que ses disciples étaient avec lui. » Amen. C'est tellement bon de voir Jésus qui se met à l'écart et de l'accompagner aussi. Amen. Il leur posa cette question déjà. « Les foules que je viens de nourrir, multiplication des pains qui vient d'arriver, hein. « Qui disent-elles que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. » Et cela nous ramène juste un peu avant verset 7. Je lis « Hérode le tétrarque apprit tout ce qui se passait au travers de ces miracles, au travers de ces démons qui étaient chassés, au travers de la puissance des disciples qui étaient exercés, car les uns disaient que Jean était ressuscité entre les morts. » Donc on voit que Hérode avait déjà exécuté Jean le Baptiste. D'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Alors qui est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. C'est pourquoi il y a cette question ici de Jésus. Il répondirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscité. Mais il leur dit, mais vous? Et cette question t'est posée ce soir, mais toi, mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Et dans Matthieu, dans le passage parallèle, bienheureux Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Verset 21, Jésus le recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les grands prêtres, par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus se met à part, prend les disciples avec lui pour se mettre à part et leur demande qui il est. Et voilà que Jésus révèle vraiment son plan, celui de mourir à la croix et celui de ressusciter. Est-ce que tu prends le risque de rencontrer Jésus, de te mettre à part avec lui pour que des perles de sa parole, pour que des perles te soient révélées dans son plan? Parce que c'est ce qui arrive. Lorsque tu te tiens à l'écart avec Jésus, des choses extraordinaires vont se passer, mais des choses parfois surprenantes. Je ne pense pas que les disciples s'attendaient à ce que Jésus leur dise qu'il allait être crucifié d'une manière absolument épouvantable et que le troisième jour, il allait ressusciter. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il faut que tu m'expliques ce plan absolument extraordinaire. Et pour cela, Seigneur, j'ai besoin de me mettre à part pour toi et avec toi, pour comprendre ces choses. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Et l'essentiel de ce message, c'est ces derniers versets, versets 23 à 27, que j'aimerais vraiment nous appliquer ce soir et nous questionner. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut marcher sur mes traces, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'ils me suivent. Pas comme Simon de Cyrène qui a été forcé de porter la croix. Le vrai disciple de Christ, comme Christ a donné sa vie volontairement, c'est celui qui volontairement va se charger de sa croix. Bien sûr, va se charger des moqueries. « Oh, tu es un petit Dieu, oh ma pauvre, tu as tellement besoin d'une béquille, tu as besoin de Dieu dans ta vie, ma pauvre, tu es faible d'esprit, tu as besoin de Dieu, ça va tellement mal dans ta vie. Mais heureusement que tu as réalisé que tu as besoin du Seigneur, parce que celles et ceux qui se moquent de toi, au jour de la mort, au jour où ça ne va pas, comment est-ce qu'elles vont se sortir ?» Amen. Toi, tu as réalisé l'essentiel. Dieu est ton rocher, Dieu est ta forteresse, Dieu est ta délivrance. Même au jour de l'épreuve, tu t'appuies sur le Seigneur parce que tu sais qu'il va te faire passer au travers de la mort parce qu'en lui, tu es déjà ressuscité. Amen. Et que la vie de Dieu est pleinement toi. Et qu'il me suive avec sa croix. Et voilà l'explication. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, et c'est vraiment le salut là, sozo en grec, le salut, voudra sauver sa vie dans toute la dimension du salut. Mais comment est-ce qu'on peut sauver sa vie sans le Seigneur? C'est pas possible. Et pourtant, il y en a qui essayent. Je ne sais pas par quel moyen, il faudra m'expliquer, je ne sais pas. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, c'est sûr, c'est pas possible. Sans le Sauveur, ce n'est pas possible de sauver sa vie. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, moi je dirais plutôt grâce à moi, la sauvera. Et c'est ça le salut. Perdre sa vie grâce au Seigneur pour la retrouver pleinement jusque dans l'éternité. Amen. Verset 25. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd ou se ruine lui-même ?» En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Vous voyez, on peut avoir toute la réputation. Je pense que sert-il à un homme de gagner le monde entier par sa réputation en mettant bien entendu Jésus de côté parce qu'on a honte de lui? C'est ce que ça veut dire. Parce que tout de suite après, il est dit, en effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Et j'aimais vous dire, dans le ciel, quand Jésus aura honte de quelqu'un, ça va être dramatique et un peu trop tard. Nous sommes au cœur de l'Évangile. Nous sommes au cœur de la révélation du Seigneur ce soir. Quand il viendra dans sa gloire, imaginez-vous, Jésus, dont on s'est moqué, viendra dans la gloire avec ses anges. Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai envie de recevoir des honneurs de ta part. Oh non, Seigneur, non, 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 non. Mais là, Seigneur, je ne voudrais pas que je sois abandonné, Seigneur. Connaître l'abandon à cause de toi, ou plutôt grâce à toi sur terre, amen, je suis d'accord, Seigneur. Mais dans ton ciel, Père, Père, j'espère que je ne dirai pas, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu maintenant? L'éternité est devant nous, bien-aimés. Pesons les choses devant l'Éternel. Attachons-nous à l'essentiel, la plus grande grâce de ne pas avoir honte de Christ et de ses paroles et de sa parole. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Bien entendu, nous parlons juste de ce qui vient après, de la transfiguration, lorsque les disciples proches de Christ ont vu le Seigneur déjà paraître dans sa gloire. Juste un goût d'éternité avant de passer à l'acte suprême de son amour par la mort de la croix.